Deutsche Welle. Droits et libertés.
Tous les États de l'Union africaine sont d'accord avec ce principe-là parce qu'ils se disent que les justices des différents pays, l'Afrique doit maintenant se prendre en charge par rapport aux différents crimes qui seront commis ou qui sont commis sur le continent africain. Et il n'est plus du ressort, par exemple, des pays occidentaux ou de la Cour pénale internationale de poursuivre les différents dirigeants ou leaders qui auront commis ces différents crimes.
La Cour pénale internationale, de nouveau dans le collimateur des Africains. Ramata Soré, notre envoyé spécial à Addis Abeba, était sur place pour en témoigner. Paranoïa ou non, les chefs d'État africains l'ont dit et répété au sommet du cinquantenaire de l'Union africaine, la CPI en veut aux Africains. Mais montrer du doigt les méchants à l'extérieur était peut-être le plus petit dénominateur commun. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce magazine. Ce n'est pas la première fois que la CPI essuie les attaques des dirigeants africains. Cette instance de la justice internationale, entrée en vigueur en 2002, est régulièrement critiquée pour ce qui est perçu comme son parti pris anti-africain. Cette fois-ci, on peut dire que c'est devenu en quelque sorte officiel. En pleine célébration des 50 ans de l'Union africaine, les chefs d'État et de gouvernement du continent se sont formellement dressés contre la CPI et, accessoirement, contre sa procureure en chef, la Gambienne Fatou Bensouda. Le premier ministre éthiopien et président en exercice de l'UA, Haile Mariam Desalegn, a joué sur la corde du racisme.
La chasse faite à ces présidents n'est pas facile à comprendre pour les dirigeants africains. La CPI doit bien voir qu'elle ne doit pas pourchasser que des Africains. 99% des personnes poursuivies par la CPI sont des Africains. Cela montre qu'il y a quelque chose de pourri dans le système de la CPI.
So this shows that there is something flawed within the system in ICC.
Les présidents dont parle ici le premier ministre éthiopien sont le président kényan Uhuru Kenyatta et son vice-président William Ruto. Tous deux ont été élus en mars dernier et tous deux sont poursuivis par la CPI pour leur implication présumée dans les violences post-électorales de fin 2007, début 2008. Les dirigeants africains demandent à présent que leur procès soit transféré devant la justice kényane. Pour Dlamini Zuma, la présidente de la commission de l'UA, c'est aussi une question d'efficacité.
ICC. La CPI n'est pas un tribunal rapide, c'est une cour qui a peu de résultats. Maintenant que le Kenya a réformé sa justice et que la confiance dans la justice kényane est revenue, l'affaire doit être traitée dans le pays.
Les choses avaient pourtant bien commencé entre la CPI et l'Afrique. Avec 34 États signataires du statut de Rome, l'Afrique est le bloc régional qui compte le plus de pays signataires. Elle a été aussi au début l'un des plus fervents défenseurs de cette juridiction internationale. Seulement voilà, des nuages sont apparus au fur et à mesure que des Africains se sont retrouvés sur le banc des accusés. Les procédures ouvertes à ce jour par la CPI ne concerne que des pays africains, à savoir la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, l'Ouganda, la Libye, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Soudan et le Kenya. Florent Gel, responsable Afrique à la Fédération internationale des droits de l'homme, n'est pas indifférent à ce sentiment d'injustice que peuvent éprouver les Africains.
La Cour pénale internationale doit améliorer sa perception sur le territoire africain, notamment en raison du fait qu'elle a des enquêtes uniquement sur l'Afrique aujourd'hui. Et pour asseoir son caractère universel, il faudrait qu'elle puisse se saisir d'autres situations de violation des droits de l'homme extrêmement graves qui se commettent dans d'autres pays du monde. On peut penser au conflit israélo-palestinien, par exemple, très symbolique et très important. On peut penser aussi à certains responsables politiques, même américains, George Bush et compagnie. Voilà, ça serait des actes symboliquement forts pour permettre, et puis utiles au niveau des droits de l'homme, pour faire comprendre que cette cour n'est pas une cour anti-africaine, mais c'est une cour qui a pour objectif de lutter contre l'impunité partout dans le monde. Et il faut vraiment asseoir ce caractère universaliste de la CPI, ce qui comprend l'air de toutes les critiques, y compris les critiques de l'Union africaine.
Ce que les dirigeants africains oublient ou ne veulent pas voir, c'est que 5 des 8 procédures engagées par la CPI contre des Africains ont été confiées à la Cour par les gouvernements des pays concernés. C'est précisément ce qui s'est passé avec le Kenya, faute d'avoir pu lui-même ouvrir des enquêtes. Maintenant, la décision prise au sommet de l'Union africaine n'aura aucun impact concret dans l'immédiat. Elle n'a aucune force contraignante sur la CPI qui est indépendante. Seul le Conseil de sécurité auquel elle est liée par un accord de coopération peut réclamer une suspension des procédures. Suspension d'ailleurs prévue dans l'article 16 du statut de Rome, comme l'explique Florent Gel.
Il est dommage que l'Union africaine prenne ce type de position. En plus, cette demande d'activation de l'article 16 est relativement mal placée, puisque l'article 16 de la Cour pénale internationale permet effectivement de suspendre des enquêtes en cours devant la Cour pénale internationale pour préserver ou pour autoriser un accord de paix entre des parties en conflit. Or, au Kenya, on n'est pas dans cette situation. Donc, on sent une utilisation du statut de Rome à des fins plutôt politiques pour éviter au président kényan de rendre des comptes devant la justice alors qu'il est en exercice du pouvoir.
Dans l'exercice du pouvoir, c'est également ce qu'est le président soudanais Omar el-Béchir qui ne cesse de narguer la CPI. Les pays de l'Union africaine se sont déjà prononcés, on le sait, contre son extradition à La Haye. Mais au-delà du cas Béchir, la décision prise maintenant à Addis Abeba risque d'avoir un effet domino. C'est en tout cas l'opinion d'Andreas Meller, directeur de l'Institut des études africaines à Hambourg.
Toutes les procédures actuelles et futures contre des chefs d'État risquent d'être enterrées. Le cas le plus célèbre est celui du Soudanais el-Béchir, qui sera encouragé à obtenir une résolution du même genre. Il en résultera un deux poids deux mesures selon qu'on est chef d'État ou chef de milice, et cela ne peut que porter un préjudice durable à la Cour pénale internationale.
Et ce qui est peut-être encore plus grave aux yeux d'Andreas Meller, c'est le repli des pays africains sur eux-mêmes.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que l'Union africaine ne se mobilise pas pour la Cour africaine des droits de l'homme qui doit être mise en place et qui doit être aussi compétente pour juger les crimes contre l'humanité. L'Union africaine renvoie aux juridictions nationales. Les gouvernements africains ne veulent donc plus de compétences régionales, mais une compétence strictement nationale. C'est une rupture brutale avec le multilatéral, avec le droit international, et cela est forcément un recul.
Selon le calendrier de la Cour pénale internationale, le procès d'Uhuru Kenyatta devrait commencer le 9 juillet. Celui de William Ruto a été reporté sine die début mai. Tous deux bénéficient bien sûr de la présomption d'innocence. Et pour mettre un point final à ce magazine, j'aimerais rappeler ce que déclarait la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, le 28 mai dernier, donc au lendemain du sommet de l'Union africaine. Les vraies victimes, a-t-elle dit, sont les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, pas ceux qui commettent ces crimes. Vouloir protéger les auteurs de ces crimes est une insulte aux victimes. Et puisque nous avons parlé du Kenya aujourd'hui, sachez encore que l'organisation Human Rights Watch a publié la semaine passée un rapport dans lequel elle formule de graves accusations contre la police kényane. Selon cette organisation de défense des droits de l'homme, des policiers kényans ont torturé de nombreux réfugiés somaliens entre novembre 2012 et janvier 2013. Human Rights Watch parle d'un millier de personnes, des Somaliens, qui ont été arrêtés dans un quartier de Nairobi peuplé essentiellement de Somaliens et dont beaucoup donc ont été très maltraités, très torturés même par la police kényane. Tout cela donc dans un rapport qui a été publié mercredi passé. Des centaines de milliers de réfugiés somaliens qui ont fui donc la guerre civile en Somalie vivent actuellement au Kenya. Nous arrivons au terme de ce magazine Droits et Libertés. Merci de nous avoir prêté votre attention. Merci également à Ramata Soré, donc, de même qu'à Edmond Dalmeida et à Ludger Chadomski pour leur contribution à ce magazine. Au micro, Marie-Ange Pierron.